Crédit immobilier de Banque Atlantique, la solution pour financer vos projets immobiliers, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, profitez-en, nous sommes vendredi, dans 30 minutes, la libre antenne, vous connaissez le principe, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix et vous êtes encore nombreux ce matin à souhaiter réagir après la publication de la liste électorale définitive en Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que plusieurs personnalités politiques ne figurent pas sur cette liste et du coup elles ne pourront pas se présenter à la présidentielle du mois d'octobre. On nous interpelle également sur la Tabaski, notamment en Guinée, ces jours de fête. Aujourd'hui, des réactions sur la grève des enseignants au Niger. Un témoignage de Tombouctou, un auditeur, et je le remercie de sa confiance, souhaite profiter de cette libre antenne pour nous parler des attaques revendiquées cette semaine par le GNIM au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Si on a le temps, on parlera football. Je vois que plusieurs d'entre vous se projettent déjà sur le Ballon d'Or avec un duel qui s'annonce. Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, on en parlera très certainement en fin de la libre antenne. Vous continuez à nous appeler, vous voyez, tous les sujets nous intéressent, 33 9 693 693 70. N'oubliez pas, dans un petit quart d'heure, comme tous les vendredis, Jessica Taïeb, elle nous rejoindra pour sa chronique « Un œil sur les réseaux ». Mais d'abord, votre rendez-vous privilégié, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Bonjour Kassoum.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Et merci de nous suivre à Fourou, c'est au Mali, c'est à la frontière ivoirienne. Et vous avez des questions concernant l'accord migratoire signé cette semaine entre le Sénégal et la Mauritanie.
Justement Juan, que dit précisément cet accord sur les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des deux pays?
Ah, effectivement.
Alors, en quoi est-il différent de celui qui était en place depuis 1972?
Eh bien, pour vous répondre, nous avons contacté pour vous Léa Lisa Vesterhoff, correspondante permanente de RFI à Dakar. Bonjour Léa Lisa.
Bonjour Juan, bonjour Kassoum.
En fait, il s'agit de deux accords. Hein. L'un sur la lutte contre l'immigration clandestine, l'autre sur les conditions de séjour. Que dit effectivement l'accord sur les conditions d'entrée et de séjour?
Eh bien d'abord, l'obligation pour se rendre dans l'un ou l'autre pays d'avoir un passeport et de passer par un poste frontière. Ensuite, si le séjour dure plus de 3 mois, les deux pays, la Mauritanie et le Sénégal, exigent désormais une carte de séjour. Elle coûte 5000 francs CFA côté sénégalais, 300 ouguiya côté mauritanien. Pour l'obtenir, il faut une copie du passeport et de la carte consulaire. Par contre, pour la première demande, pas besoin de justifier d'un contrat de travail ou de revenu. La carte de séjour sera attribuée sans condition. Ce n'est qu'au bout d'un an, au moment du renouvellement de cette carte de séjour, qu'il faudra justifier de revenus. Autre disposition, les véhicules peuvent séjourner 6 mois sans formalité particulière dans chacun des deux pays. Enfin, la convention réaffirme l'engagement de chaque pays de lever tout obstacle à la libre circulation des ressortissants du pays voisin sur son territoire.
Et je rappelle que ces accords ont été signés après la vague d'expulsion de migrants menée au mois de février, au mois de mars par les autorités mauritaniennes. En quoi l'accord conclu cette semaine, Léa Lisa Vesterhoff, est-il différent de celui qui était en vigueur depuis 1972?
Oui, c'est vrai que cette convention stipule qu'elle remplace l'accord du 8 octobre 1972. Alors, difficile de les comparer, j'ai pu retrouver cet accord, mais en réalité, cette convention signée en 1972 était beaucoup plus succincte pour tout Sénégalais ou Mauritanien voulant travailler dans le pays voisin. Elle exigeait seulement d'avoir un contrat de travail en bonne et due forme. Ce nouveau texte est donc bien plus détaillé et semble vouloir encadrer la circulation entre la Mauritanie et le Sénégal avec cette exigence d'avoir une carte de séjour désormais dès qu'on reste plus de 3 mois chez son voisin. C'est au vu de l'ampleur des flux migratoires entre les deux pays, affirme la convention.
Léa Lisa Vesterhoff, reste avec nous. Kassoum a une dernière question à vous poser.
Oui, peut-on espérer que cet arrangement mettra fin aux campagnes d'expulsion des migrants sénégalais en situation irrégulière?
Léa Lisa, c'est tout l'enjeu de cet accord.
Oui, c'est toute la question et l'enjeu, puisque c'est un sujet sensible. Et vous le rappeliez, en février-mars dernier, il y a eu l'expulsion de plusieurs centaines de Sénégalais qui avaient beaucoup choqué, hein, au point où la ministre des Affaires étrangères sénégalaise elle-même, Yacine Fall, s'était indignée et avait parlé de conditions d'expulsion inhumaines. Il va falloir voir maintenant comment cet accord est appliqué et s'il simplifie véritablement les choses. La première question côté sénégalais, c'est de savoir comment obtenir cette carte de séjour, car plusieurs personnes ont fait état de l'absence de bureaux à Nouakchott pouvant en délivrer. Peut-être faudra-t-il laisser le temps à ces services de se mettre en place. L'autre remarque vient des pêcheurs. Des milliers de pêcheurs sénégalais travaillent sous contrat avec des propriétaires de bateaux mauritaniens chaque jour dans les eaux mauritaniennes. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas de carte de séjour. Un certain nombre d'entre eux s'étaient également vus expulsés en mars dernier. Comment sera géré leur statut particulier? Devront-ils présenter une carte ou un autre document les autorisant formellement à travailler en Mauritanie, comme ils le demandent? Voilà quelques-unes des questions qui restent pour le moment.
Et si vous êtes au Sénégal ou en Mauritanie, que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas, profitez-en. La libre antenne, c'est dans 20 minutes. 33 9 693 693 70. Kassoum, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, 100%.
Bonne journée. Merci à vous, surtout de nous écouter à Fourou. C'est à la frontière ivoirienne, côté malien. À très vite, Léa-Lisa Westerhoff, correspondante permanente de RFI à Dakar. RFI à Dakar, c'est sur les 92 FM. On repasse au standard. Bonjour Alex.
Oui, Juan, bonjour.
En Centrafrique, Alex, vous avez des questions après la décision de Donald Trump d'interdire aux ressortissants de 12 pays d'entrer aux États-Unis.
Oui, justement. Monsieur Juan, le président Donald Trump a pris cette décision suite à une attaque perpétrée par un homme d'origine égyptienne dans le Colorado. Mmh. Pourquoi l'Égypte ne figure pas dans la liste des pays visés?
Ouais, bonne question que vous posez, Alex. Effectivement, ça a d'ailleurs été repris par tous les médias. Je n'ai pas l'explication, mais peut-être que Jérôme Viala-Godefroy, qui est avec nous ce matin, va pouvoir nous éclairer. Bonjour.
Bonjour.
Docteur en civilisation américaine, spécialiste en rhétorique présidentielle. Je ne vais pas citer les 12 pays concernés. En tout cas, cette interdiction, elle s'applique notamment à 7 États africains, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Libye, la Somalie et le Soudan. Et effectivement, Jérôme Viala-Godefroy, l'Égypte ne figure pas sur la liste des pays concernés, alors que, Alex le rappelait à juste titre, Donald Trump dit avoir pris cette décision après l'attaque de dimanche dernier dans le Colorado, perpétrée par un homme d'origine égyptienne. Éclairez-nous, expliquez-nous.
Alors, on a posé d'ailleurs la question à Donald Trump hier et il a dit que l'Égypte avait un meilleur contrôle de sa base de données et pouvait offrir des garanties de contrôle. Bon, en réalité, il faut savoir que l'Égypte est un allié stratégique extrêmement important dans la région, hein, par rapport notamment à ce qui se passe en Palestine, en Israël et pour la lutte antiterroriste. Et donc, il y aurait eu des risques élevé, diplomatique élevé, très important, d'une inclusion de l'Égypte dans cette liste. Et voilà, donc ça montre quand même que effectivement il y a des sortes d'incohérences et que finalement on est beaucoup plus sur des critères arbitraires. Et il y a d'autres exemples hein, d'ailleurs qui ça devrait faire aussi qu'il y aura des recours auprès des tribunaux.
Alors justement, il me semble qu'Alex a une question à vous poser sur les tribunaux. Alex?
Oui, en fait, y a-t-il une possibilité que cette interdiction soit suspendue ou contestée devant la Cour suprême?
Jérôme Viala-Godefroy, est-ce que c'est possible déjà de contester ce décret?
Ah oui, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, les ONG et un certain nombre d'organisations sont vraiment prêts à ça. Et du coup, ils font faire des recours. Après, il reste à savoir si ça ira jusqu'à la Cour suprême. Il faut se souvenir que c'est la Cour suprême qui peut décider de prendre ou pas ces affaires. Oui. Ces cas-là, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs avec le Muslim Band en 2017.
Mais Jérôme Viala-Godefroy, en 2017, évidemment, on a tous encore en mémoire ce décret. Signé par Trump, imposant à un certain nombre de pays, principalement musulmans, une interdiction d'entrée sur le territoire. Les tribunaux avaient été saisis à l'époque. Je ne sais plus quelle était la décision des tribunaux, mais ce décret est resté en vigueur jusqu'à l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche.
Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a eu énormément de changements entre la première version et la version qui a été accordée par la Cour suprême. Et là, Trump a quand même appris de ses erreurs et il a fait très attention aussi à ne pas à donner certaines restrictions à cette interdiction.
Allez, je rappelle qu'il y a l'interdiction d'entrée pour les ressortissants de 12 pays, mais les citoyens de 7 autres pays sont également visés, mais alors là, pour le coup, par des restrictions partielles concernant notamment les visas d'étudiants pour les échanges universitaires ou encore les visas de tourisme. Jérôme Bialat-Godefroy, une dernière question que vous pose Alex.
Oui, en fait, quelles vont être les conséquences pour les ressortissants de 7 pays qui sont déjà aux États-Unis?
Jérôme Bialat-Godefroy.
Ceux qui sont déjà aux États-Unis, justement, ont été exemptés, ceux qui ont leur visa avant le 9 juin, c'est-à-dire la mise en place de cette interdiction lundi, il ne devrait pas y avoir de problème pour eux, normalement.
Merci de votre éclairage, Jérôme Bialat-Godefroy, docteur en civilisation américaine, spécialiste en rhétorique présidentielle. Interdiction qui prendra effet lundi. On aura l'occasion de vous donner largement la parole lundi matin pour commenter cette actualité. Je précise qu'aucune date d'expiration n'a été fixée. Donc voilà, on connaît le jour précis du lancement de cette interdiction, mais on n'en connaît pas la date de la fin. 10h21 à Paris, Patient Ligaudy du service Afrique de RFI nous rejoint à l'instant. Bonjour Patient.
Bonjour Juan.
Soyez le bienvenu. On vous a demandé de venir ce matin car on a reçu des questions concernant la République démocratique du Congo et l'élection de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU. Caleb, bonjour. Ah, Jean-Bernard, me dit-on. J'avais un mauvais prénom sur ma fiche. Bonjour Jean-Bernard.
Bonjour Juan.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons avec Patient Ligaudy.
Oui, j'aimerais comprendre quels avantages le Congo peut tirer avec ce siège au Conseil de sécurité. Est-ce que cela pourrait aider à améliorer la situation sécuritaire dans l'est du pays?
Ouais, bonne question, Patient Ligaudy. La RDC n'avait pas siégé au Conseil de sécurité depuis 1992. Je rappelle, c'est important de le préciser, la RDC va siéger en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, mais évidemment, ce sera l'occasion pour le pays de faire entendre sa voix, j'imagine, sur la scène internationale.
Il faut déjà préciser que c'est pour la période 2026-2027.
Ça veut dire que le pays va siéger officiellement à partir du 1er janvier.
Exactement.
2026, d'accord.
Alors, comme on peut bien l'imaginer, c'est une position importante, même s'il ne donne pas à la RDC un pouvoir de décision aussi fort que celui de 5 membres permanents qui, eux, disposent du droit de veto. Alors, quels avantages peut-on espérer? Il y a d'abord la visibilité diplomatique. Être au Conseil de sécurité, c'est siéger là où peuvent se prendre de grandes décisions sur les conflits, la paix, la sécurité à l'international. Et pour la RDC, cela signifie avoir la possibilité de se placer à l'agenda international et de placer également les questions qui la concernent, comme la crise dans l'est du pays. Et deuxièmement, c'est le renforcement de la légitimité. Ce siège donne à la RDC une voix plus écoutée dans les débats internationaux. Elle peut défendre sa position, dénoncer les agressions sur son territoire, mobiliser davantage la communauté internationale, notamment sur la question de l'AFC-M23 et également du rôle du Rwanda. Et troisièmement, la capacité d'influence, c'est important, mais sans droit de veto. Les membres non permanents participent activement aux discussions, aux comités de sanctions et peuvent co-présider certains dossiers sensibles. C'est une forme d'influence indirecte, mais bien réelle. Et sur le plan sécuritaire, c'est d'ailleurs la question.
Effectivement.
C'est là qu'il faut rester lucide. Être membre du Conseil de sécurité ne garantit pas une amélioration immédiate de la situation sécuritaire sur le terrain, mais cela donne à la RDC une tribune forte pour plaider sa cause, pour demander des sanctions, pour influencer des résolutions ou pour créer des alliances. Encore faut-il que le pays utilise activement cette position avec une diplomatie organisée, cohérente et stratégique. En réalité, ce n'est pas une médaille en soi, c'est une responsabilité, disent les experts que nous avons contactés à ces sujets. Il faut du sérieux, de la cohérence et une vraie politique étrangère. Et si on doit retenir quelque chose de ce que je viens de dire, c'est que ce siège est une opportunité pour renforcer la voix de la RDC au niveau international. Il peut servir la paix à condition que le gouvernement soit préparé, cohérent, proactif dans les débats.
La RDC, membre non permanent du Conseil de sécurité à partir du 1er janvier prochain. Jean-Bernard, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, je vais dire que c'est un puzzle qu'il faut donc que les Congolais réussissent à monter.
Ben voilà, c'est votre conclusion, votre analyse. Merci de votre fidélité à Kinshasa. À très vite, Patient Ligaudi, journaliste au service Afrique de RFI. Il est 8h25 en temps universel, dans un quart d'heure maintenant. La libre antenne, vos réactions sur l'actualité de votre choix. Vous continuez à vous inscrire, n'hésitez pas, toute l'équipe vous attend au standard. 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos commentaires, vos réflexions sur nos réseaux sociaux. Vous nous suivez en ce moment à la radio, mais vous pouvez également nous suivre en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. Et là aussi, envoyez-nous des messages, je me ferai un plaisir de les lire. La libre antenne dans un petit quart d'heure, vous aurez peut-être envie de réagir à cette actualité devenue virale sur les réseaux sociaux. Un œil sur les réseaux. Bonjour Jessica Taïeb.
Bonjour Juan.
Vous avez scruté pour nous les réseaux sociaux et cette semaine, c'est l'arrestation du rappeur togolais Amron à son domicile, il y a 10 jours, le 26 mai. Arrestation qui suscite une vague de réactions. Depuis son interpellation, aucune réaction officielle. D'ailleurs, on ne sait pas si une procédure est en cours. Mais hier matin, une vidéo de 4 minutes a été publiée sur son compte TikTok.
Face caméra, Amron raconte dans cette vidéo avoir été interpellé puis conduit à l'hôpital psychiatrique de Zébé, à 50 km de Lomé. Le rappeur est connu pour ses critiques contre le gouvernement et contre la 5e République. Il dit souffrir de dépression et présente de ses excuses au président du conseil, Faure Gnassingbé. Alors, pour l'instant, impossible de savoir dans quelles conditions cette vidéo a été tournée et si le rappeur a parlé sous la contrainte. Mais ces images n'ont de toute façon pas suffi à rassurer les internautes. Sur X, on peut toujours lire des milliers de publications avec le hashtag Libérer Amron. Et c'est principalement sur TikTok que les internautes togolais se mobilisent. Des centaines de vidéos de soutien à Amron ont été postées. Et c'est d'ailleurs sur ce même réseau social que l'artiste est très actif. Le mois dernier, une de ses vidéos a été vue plus d'un million de fois. Dans une vidéo live, il dit à sa fille, je cite, « On est en train de voler l'argent du pays. Si jamais on m'arrête, il faut savoir que c'est monsieur Faure Gnassingbé qui a envoyé des gens pour m'arrêter. Ne l'oubliez pas. » Et des propos qui ont été forcément repris et partagés des milliers de fois.
Oui, et preuve de l'ampleur de la mobilisation en soutien à Amron. Les internautes interpelle désormais directement Emmanuel Macron.
Depuis mercredi, le compte TikTok officiel du président français a été pris d'assaut par les internautes. Sous sa dernière vidéo, des milliers de commentaires réclament la libération d'Amron. Et des réactions, il y en a aussi sur X. Je vous en lis quelques-unes. Amron, tu as tout mon soutien. La jeunesse togolaise doit faire preuve de courage. La culture de la peur ne doit plus exister au Togo. Celui-ci, pour qui le rappeur est un porte-voix. Arrêter Amron n'est pas la solution. Il n'a dit que des vérités que nous pensons tous. Les Togolais souffrent. Ou encore cette phrase qui revient souvent dans les commentaires. Au Togo, la liberté d'expression existe, mais c'est la liberté après expression qui n'existe pas. Une mobilisation qui a été reprise par une partie de l'opposition togolaise, et notamment par l'ANC de Jean-Pierre Fabre, qui condamne dans un communiqué le kidnapping politique d'Amron et réclame sa libération immédiate.
Bon, en tout cas, cette vague de soutien pour le rappeur ne fait pas l'unanimité. Vous avez pu lire, évidemment, des commentaires dénonçant le procédé d'Amron.
Oui, c'est une mobilisation qui agace, même certains internautes. Je vous partage quelques commentaires. Amron, tu es chanteur, alors chante. On ne transforme pas l'échec artistique en posture politique. Si ta musique ne perce pas, ce n'est pas la faute de Faure Gnassingbé. Celui-ci, plus nuancé. Personne n'est contre le combat du rappeur, mais on peut faire de la politique sans insulter. Et je termine avec ce commentaire indigné. Dans ses vidéos, Amron mêle ses enfants à ses histoires de politique. Il s'en sert comme bouclier. Quand on défend, soi-disant, une cause honorable, il faut éviter de le faire de cette manière.
Voilà un sujet qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et on continuera bien évidemment à suivre cette mobilisation sur les réseaux, d'autant qu'avant son arrestation, Amron avait ironiquement appelé à célébrer dans la rue aujourd'hui même, 6 juin, l'anniversaire de Faure Gnassingbé, une journée qu'il voulait de mobilisation contre la 5e République. Appel qui a été repris par de nombreux artistes, de nombreuses personnalités. On suivra quelle sera la mobilisation effective dans les rues, notamment de Lomé. Merci infiniment, Jessica Taïeb. Un œil sur les réseaux, c'est à réécouter sur l'application RFI Pure Radio et c'est en image également sur la chaîne WhatsApp de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Vous êtes 1 500 000 à nous suivre. Merci à à tous de votre fidélité. La chaîne WhatsApp, vous n'êtes pas abonné ? Eh bien, faites-le tout de suite, vous allez voir. Il y a des surprises, des sondages, les coulisses de l'émission et évidemment, le rappel des explications des confrères de la rédaction qui répondent tous les matins à vos questions. Restez avec nous, il est 10h30 ici, à Paris.